Les matinales de KPMG.
Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver sur les ondes de Radio KPMG pour vous présenter l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière du mois de mars. Nous sommes le jeudi 4 avril 2024, au micro, Laurent Chillet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
L'engagement pris par l'Europe d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 s'appuie sur de nombreuses dispositions réglementaires que nous avons évoquées très souvent à ce micro.
Oui Hélène, parmi ces dispositions figure la taxonomie qui instaure une définition européenne commune des activités durables et également la directive CSRD qui encadre le rapport de durabilité applicable en 2024 par les grandes entreprises d'intérêt public et au cours des années suivantes par près de 50 000 sociétés opérant dans l'espace communautaire. Les textes de transposition de la CSRD ont été publiés en décembre dernier. Aujourd'hui, les entreprises sont donc à pied d'œuvre et elles sont en train de nommer leurs auditeurs chargés de vérifier leur rapport de durabilité. Dans le dossier du mois, nous examinerons donc les principaux enjeux de ce rapport de durabilité avec notre invitée, Isabelle Lost, associée KPMG, experte et praticienne depuis plus de 25 ans des questions ESG.
Mais avant cela, commençons, si vous le voulez bien, Laurent, avec le journal de la rédaction.
Le journal.
Deux titres à la une dans l'actualité sociale. Tout d'abord, le projet de loi sur l'acquisition de congés payés en cas d'arrêt maladie a été présenté par le gouvernement. Dans l'actualité comptable, ensuite, le comité d'interprétation des IFRS, l'IFRIC pour ne pas le nommer, a finalisé sa décision relative à la comptabilisation des engagements liés aux enjeux climatiques. Et puis, comme toujours, à la fin de ce journal, nous vous prodiguerons nos recommandations de lecture et éventuellement d'écoute. Commençons avec l'actualité sociale. Le feuilleton de l'acquisition de congés payés lors d'un arrêt maladie continue, suite aux arrêts de la Cour de cassation en septembre 2023 et après avoir recueilli l'avis du Conseil d'État, le gouvernement a déposé début mars un projet de loi, Laurent.
Oui Hélène, le feuilleton continue. Comme nous l'avions annoncé dans notre matinale de mars, le gouvernement a déposé un amendement prévoyant de nouvelles règles en matière d'acquisition de congés payés dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Cet amendement a été adopté sans débat, tel quel, par l'Assemblée nationale le 18 mars 2024.
Et sur le fond, où en est-on ?
Sur le fond, le Code du travail a été modifié et fixe de nouvelles règles en matière de congés payés lors d'arrêt maladie. Notamment, un accident ou une maladie sans caractère professionnel permet désormais d'acquérir des congés payés. Cette acquisition est toutefois limitée à 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours par an. La disposition faisant obstacle à l'acquisition de congés payés au-delà d'un an par les arrêts liés à une maladie professionnelle a été supprimée. Et de plus, au retour du salarié, l'employeur aura 10 jours pour l'informer de ses droits à congés payés acquis avant et pendant son arrêt maladie. Le salarié disposera ensuite de 15 mois pour les prendre. Pour les arrêts maladie de longue durée, notons que le délai de report débutera dès la fin de la période d'acquisition des droits et non à partir du retour du salarié, afin d'éviter une accumulation des droits à congés.
Ces nouvelles règles, conformes au droit européen, permettent dans une certaine mesure une meilleure appréciation du risque financier encouru par les entreprises pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi Laurent.
Certes, mais le texte ne permet toutefois pas de lever toutes les incertitudes quant à la prescription des droits à congés réclamés par les salariés. Et donc, afin que ces incertitudes ne durent pas éternellement, le législateur a prévu que toute action liée à l'acquisition de congés payés, relatif aux arrêts de travail intervenus entre le 1er décembre 2009 et l'entrée en vigueur de la loi, devra être introduite dans les 2 ans à compter de cette entrée en vigueur à peine de forclusion.
Et donc, quand peut-on espérer une entrée en vigueur de la loi ?
La procédure accélérée a été engagée et devrait être finalisée pour une entrée en vigueur immédiate de la loi dans le courant du mois d'avril. Le feuilleton devrait donc se terminer très bientôt, Hélène.
Nous en voilà rassurés. Au regard de l'universalité du sujet et de sa relative complexité, nous avons décidé de consacrer une édition spéciale des Sociales à cette question au cours des prochaines semaines. Pour rester informés, Écoutez donc Radio KPMG. Poursuivons maintenant avec l'actualité comptable internationale. Au cours du mois de mars, le comité d'interprétation des IFRS a rendu sa décision relative à la comptabilisation des engagements liés aux enjeux climatiques, sous réserve bien entendu de son approbation par l'IASB. Cette décision, Laurent, porte sur les circonstances dans lesquelles une société reconnaîtrait une provision en lien avec les coûts à engager pour répondre à un engagement de réduction ou de compensation de gaz à effet de serre.
Oui, Hélène, et pour être encore plus précis, le cas analysé par l'IFRIC concerne un engagement volontaire net zéro ou équivalent. Ici, l'entreprise s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% à horizon 2029 et à compenser les émissions résiduelles à partir de cette date.
Et donc, comment conclut l'IFRIC dans ce cas-là ?
Dans sa décision, l'IFRIC a confirmé qu'en application d'IS 37, l'entreprise devrait déterminer si son engagement créer une obligation implicite. La réponse à cette question dépendra des faits et circonstances spécifiques à chaque entité et fera appel au jugement. Et dans l'affirmative, si elle devrait comptabiliser une provision en lien avec cette obligation implicite. Ici, l'entreprise devra donc examiner si les trois critères d'IS 37 nécessitant la comptabilisation d'une provision sont remplis. Dans le cas analysé, l'engagement porte sur la réduction et la compensation future de gaz à effet de serre. L'obligation actuelle, liée à un événement passé, n'existe donc pas à la clôture. L'entreprise ne pourra ainsi pas comptabiliser de provisions au titre de ses engagements avant que ces émissions ne soient effectivement réalisées.
Je vous repose donc ma question. Comment conclut l'IFRIC dans ce cas-là ?
L'IFRIC a conclu à l'existence d'une obligation implicite lorsque l'entreprise prend un engagement public. Toutefois, elle ne pourra pas comptabiliser de provisions en lien avec les coûts qui seront à engager pour répondre à cet engagement à la date d'annonce publique. En revanche, elle pourrait être amenée à le faire dans le futur si elle continue à émettre des gaz à effet de serre au-delà de 2029 et si les autres critères prévus par IS 37 sont bien évidemment remplis.
C'est bien clair cette fois-ci. Avant de refermer ce journal, quelles sont les principales publications à recommander aujourd'hui à nos auditeurs ?
Hélène, j'en recommanderais trois. Tout d'abord, le nouveau numéro de la lettre de la gouvernance. Ensuite, l'édition 2024 de nos guides relatifs aux états financiers intermédiaires, à savoir les Illustrative Disclosures et la Disclosure Checklist, très utile pour préparer l'arrêté IFRS du 30 juin prochain. Dans cette édition sont notamment fournis des exemples illustrant les amendements IS 1 relatifs au classement des passifs en courant ou non courant, mais aussi le classement des emprunts assortis de covenant. Et enfin, les amendements à IAS 12 liés à l'impôt minimum mondial pour un groupe redevable de cette taxe dans certaines des juridictions où il opère. Et enfin, le traditionnel numéro d'IFRS en bref de mars.
Toutes ces publications sont accessibles sur kpmg.fr. Un grand merci à vous, Laurent. Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve dans un instant avec notre invité.
Le dossier du mois.
Notre matinale de novembre a été consacrée à la taxonomie et à la CSRD. Nous avions abordé le sujet sous des aspects réglementaires, nous avions évoqué le champ d'application, les échéances, les contenus. Aujourd'hui, les grandes entreprises cotées sont à pied d'œuvre et la CSRD est au cœur de leurs attentions. Cette directive suscite des questionnements, des inquiétudes pour sa mise en place, son déploiement. Pour répondre à ces inquiétudes et éclairer les acteurs économiques, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à notre micro Isabelle Lost, associée ESG Audit de KPMG France, experte et praticienne depuis plus de 25 ans de ces questions extra-financières. Bonjour Isabelle.
Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
Isabelle Lost, ma première question sera très directe. Est-ce que la directive CSRD vous a surprise ?
Dans son esprit, non, aucunement. Bien sûr qu'elle a replacé dans un contexte planétaire en forte et constante évolution, qu'il soit géopolitique, géoclimatique, social, sociétal. Mais n'est-elle pas simplement à replacer également dans une modification profonde de la structure de l'organisation des entreprises ? La CSRD ne répond-elle pas à un besoin urgent d'adaptation, voire pour certaines d'entre elles, de refonte de leurs outils de pilotage ? Si l'on regarde bien, nous sommes aujourd'hui dans un monde de plus en plus interdépendant. Les entreprises s'implantent dans le monde entier, avec des fournisseurs et des sous-traitants également à l'international. Les entreprises se sont souvent recentrées sur leur core business et ont externalisé des éléments clés de gestion de leur activité. Ce sont des savoir-faire, des équipements qui ne sont plus au cœur de l'entreprise, mais qui pourtant restent parfois au cœur de sa performance. Externaliser un risque ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Cela veut simplement dire qu'il a été confié à une entreprise jugée plus experte pour le maîtriser, ou qui fabriquera un sous-produit moins cher, parce qu'elle aura des volumes de fabrication supérieurs. Mais il ne faut pas oublier que l'entreprise dépend encore de ce risque. Il est situé à l'extérieur de l'entreprise et la seule cartographie des risques pour piloter le groupe ne suffit donc plus.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour illustrer votre propos ?
Oui, en 2022, une grève a éclaté dans des papeteries finlandaises, ce qui a engendré de sérieux retards de livraison. La Fédération européenne a alerté l'Europe et là, je la cite, « Nous exhortons toutes les parties prenantes, employeurs, syndicats et autorités, à prendre en considération les implications macroéconomiques européennes de ce conflit et à évaluer leurs responsabilités sociales envers la communauté européenne dans la résolution de ce conflit. » On le voit, la Fédération et les entreprises clientes redoutaient en effet une réaction en chaîne et avaient estimé que si les livraisons d'étiquettes aux clients des biens de grande consommation, notamment alimentaires et pharmaceutiques, avaient été interrompues, l'impact aurait potentiellement affecté 500 millions de consommateurs européens. J'ai pris sciemment un exemple non lié à l'environnement. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on voit ? Une entreprise pharmaceutique qui n'est plus en mesure de commercialiser ses produits à la suite d'un conflit social, non pas chez elle, mais chez un de ses fournisseurs, donc sur un des éléments de sa chaîne de valeur. La question est, a-t-elle une alternative à ce fournisseur ? A-t-elle ou non une solution ? Nous voyons bien par cet exemple qu'un impact social sur la chaîne de valeur entraîne un risque financier associé élevé. Sans le savoir, on travaille sur des éléments de la CSRD.
C'est-à-dire ?
Une partie prenante clé, on l'a, le fournisseur d'étiquettes. On voit un impact social qui est sur la chaîne de valeur, et en plus, qui dans ce cas est avéré, on a une partie prenante indirecte qui peut aider dans la résolution du problème, la fédération. Et enfin, le risque financier associé, la perte de chiffre d'affaires en cas d'absence d'alternative.
Et ces quatre éléments, Isabelle, sont à prendre en compte pour élaborer la grille de double matérialité qui va reprendre les impacts de la chaîne de valeur et leurs conséquences financières pour l'entreprise. Mais est-ce un cas particulier ?
Il est peut-être particulier parce que le point de départ est une problématique essentiellement de dialogue social, mais les entreprises rencontrent de plus en plus souvent des difficultés d'approvisionnement de ressources. Les exemples sont nombreux. Il y a la problématique sur les composants, il y a eu les pénuries de bois, de tuiles, de carrelage dans le monde du BTP. Je pourrais poursuivre les exemples. Les groupes sont également confrontés aux problèmes de ressources humaines. L'entreprise fait face à ces risques pour sa gestion propre, mais elle doit également, et c'est là le point, anticiper ces risques chez ses fournisseurs.
En fait, vous revenez sur un contexte planétaire qui est en évolution, hein. Ça n'a pas débuté en 2024, ça a débuté déjà il y a plusieurs décennies, qui nous demande d'agir différemment et de potentiellement repenser nos modèles économiques.
Tout à fait. La crise de l'énergie en est un très bon exemple. Les prix de l'énergie ont très fortement augmenté et ont dégradé les performances de certains secteurs d'activité. Cette crise a été en quelque part un élément clé pour le lancement de démarches de sobriété énergétique et pour l'élaboration des plans de transition énergétique. D'autres exemples. Cet été, de nombreuses régions en France ont dû réduire leur consommation d'eau à la suite de décrets sécheresse. Les entreprises ont respecté ces mêmes restrictions avec potentiellement une réduction d'activité. À l'inverse, dans le nord de la France, à la suite des inondations, des activités ont été arrêtées pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on voit ? Que nous montrent ces exemples ? Simplement que les contraintes ne sont pas que réglementaires. Nous devons nous adapter aux conséquences du dérèglement climatique que nous subissons déjà et nous préparer à celles à venir. Il est important de formaliser ces risques sur toute la chaîne de valeur pour pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout suffisamment tôt.
Alors, on voit le côté sombre, mais au-delà des risques, n'y aurait-il pas également des opportunités pour les entreprises ?
Tout à fait, et c'est l'objet à la fois de la taxonomie et de la CSRD. L'Europe, au travers de son Green Deal, veut se positionner sur trois enjeux clés : la lutte contre le changement climatique, l'économie circulaire et l'égalité homme-femme. Elle veut que le système européen aide les entreprises qui ne sont pas durables aujourd'hui à travailler sur leur durabilité pour être justement durables demain. Elle souhaite également identifier les entreprises déjà durables et notamment leur activité habilitante au sens de la taxonomie verte.
Pouvez-vous préciser à nos auditeurs ce que c'est qu'une activité habilitante, Isabelle ?
C'est une activité qui permet aux clients, aux consommateurs de réduire leur impact négatif sur la planète. C'est en ce sens qu'elle est habilitante. Aller vers un monde plus vertueux veut dire travailler sur des plans de transition énergétique, sur l'économie circulaire, sur des actions de préservation de la biodiversité. Et bien sûr, tout cela nécessite des investissements et donc des financements. Dans cette logique, le monde bancaire est soumis à la SFRD. Cette réglementation impose aux banques et aux fonds d'investissement de présenter ce que font leurs clients et leur participation en matière de ESG. L'Europe souhaite simplement que le système soit transparent sur les performances actuelles, sur des critères ESG et que les groupes s'engagent sur des stratégies qui réduisent leurs impacts négatifs et augmentent leurs impacts positifs. Ce système interconnecté société et monde financier permet de donner de la transparence sur l'allocation des financements et en quelque part d'imposer aux entreprises de s'engager à réduire leur impact négatif, justement sous peine de plus être financées.
Revenons à la CSRD. Après être passé par la SFRD, la CSRD est un outil de reporting qui permet aux financiers d'obtenir de l'information pour justifier leur politique de financement et d'investissement. Elle est la suite logique de la déclaration de performance extra-financière qui, elle, datait de 2017.
Oui, tout à fait. La DPEF plaçait la RSE au cœur de la stratégie de l'entreprise, avec comme point de départ le modèle d'affaires de l'entreprise, ce qui était déjà un énorme progrès par rapport aux réglementations précédentes. L'approche était déjà très structurée. 1. L'entreprise explique les tendances et les spécificités de son secteur d'activité. 2. Elle explique comment elle intervient dans ce secteur d'activité. Elle décrit les services ou les produits qu'elle fabrique. 3. Elle présente ses parties prenantes. 4. Il faut présenter la valeur que l'entreprise a créée et surtout comment elle la partage avec les parties prenantes pour que ces parties prenantes aient envie de continuer à l'accompagner et également pour qu'elle reste en mesure de l'accompagner.
Alors, vous semblez attacher beaucoup d'importance, Isabelle, à cette structuration.
Oui, mais justement parce qu'elle est structurante. La DPEF imposait déjà de travailler sur la chaîne de valeur, de l'extraction de la matière jusqu'à la fin de vie du produit. C'était surtout vrai pour les groupes industriels. Elle imposait à l'entreprise, dans le principe, à réfléchir à toutes ses parties prenantes et à les intégrer dans sa stratégie. La réglementation DPEF imposait une analyse des risques, la publication et donc le suivi d'indicateurs de performance pour permettre de piloter l'entreprise sur ces critères. On va prendre des exemples. Des effectifs qui partent, c'est un savoir-faire fragilisé. Des difficultés de recrutement, c'est au mieux un chiffre d'affaires retardé dans le temps, mais au pire, c'est une perte d'activité. Nous étions déjà sur l'entreprise inclusive, avec l'intégration des parties prenantes dans la stratégie de l'entreprise.
Et donc, qu'est-ce qu'apporte la CSRD en plus ?
Les apports sont majeurs. Aujourd'hui, avec la CSRD, l'entreprise doit démontrer la robustesse de sa démarche et pour cela, elle doit mener des diligences, elle doit effectuer des travaux pour démontrer qu'elle a pris en compte ses parties prenantes et que le dialogue avec elle est régulier. Ce n'est plus simplement un reporting à date. Une partie de l'information est prospective. Et là, c'est un élément clé. Il s'agit de s'engager sur des trajectoires de réduction de ses impacts négatifs pour la planète. Troisième point, l'information est aujourd'hui normée pour plus de transparence et de comparabilité entre entreprises, avec un niveau d'information beaucoup plus important que par le passé. Il y a un lien entre l'information extra-financière et financière. On parle aujourd'hui de convergence financier-extra-financière. Pour la première fois, quelques données quantitatives sont à communiquer sur le périmètre chaîne de valeur, ce qui est beaucoup plus compliqué et contraignant pour une entreprise. Mais là aussi, on est sur tout l'écosystème. La gouvernance apparaît comme un axe essentiel de la démarche. Et là encore, les administrateurs ont un rôle majeur à jouer pour définir la stratégie, suivre son déploiement et analyser les performances. On s'attend également à ce que la direction générale prenne en main ce sujet et que sa rémunération variable soit indexée sur des critères significatifs de la stratégie ESG. En fait, au travers de cet exercice, l'entreprise travaille sur sa capacité à devenir durable.
Alors, vous dites à l'instant là, qu'il y a un niveau d'information beaucoup plus important qui est requis par la CSRD et qui est à fournir dans le rapport de durabilité. Ce niveau d'information suscite des interrogations, voire des inquiétudes au sein des entreprises, Isabelle.
Oui, effectivement. Je dirais que 4 raisons majeures concourent à cette augmentation significative des données à communiquer. Tout d'abord, il convient de traduire les impacts environnementaux, sociaux, de gouvernance en risques ou opportunités financières, ce qui est un des apports majeurs de la CSRD. En clair, une fabrication industrielle dans une zone à stress hydrique peut être empêchée et avoir de lourdes conséquences sur l'activité. Et là, on voit tout de suite le lien avec le financier. Il faut présenter également les travaux réalisés par l'entreprise, à la fois en interne et auprès de ses parties prenantes, pour élaborer une grille de double matérialité fiable. Je vous donne tout de suite un exemple. Un dirigeant a évoqué le sujet des démissions et des difficultés de recrutement qu'il avait eu dans l'année et a estimé que sans cela, son chiffre d'affaires aurait été supérieur de 30%. En quelque part, il venait de documenter la double matérialité.
Vous avez évoqué 4 raisons à cette croissance, à cette augmentation forte d'informations requises par la CSRD, les 2 autres.
Oui, les entreprises vont devoir aussi indiquer leurs engagements sur des trajectoires et sur des plans de transition, notamment énergétiques. Ce qui, là encore, impose de présenter les hypothèses et les scénarios. Bien sûr, cela veut dire de nouvelles informations à fournir. Enfin, les entreprises doivent dorénavant communiquer sur un plus grand nombre d'indicateurs pour répondre, dans ce cas-là, à un enjeu de comparabilité. Et pour la première fois, ces indicateurs sont normés. Donc Hélène, oui, on peut le dire, la marche est haute.
Et en plus, le champ d'application de la CSRD est beaucoup plus important que la DPEF. Les sociétés de 250 salariés seront également soumises, ce qui est nouveau pour elles.
Oui, tout à fait. Mais si l'on regarde bien, en définitive, toutes les entreprises sont aujourd'hui plus ou moins contraintes de mettre en place une démarche ESG pour elles-mêmes, en raison du contexte planétaire qui nous contraint à mener ces stratégies raisonnables de préservation des ressources, mais elles vont le faire également pour leurs clients qui se sont engagés dans des démarches de réduction des impacts négatifs et de poursuite de développement des impacts positifs.
La CSRD va donc être progressivement mise en œuvre en France, en commençant par les grandes entreprises, entités d'intérêt public de plus de 500 salariés, dès cette année, dès l'exercice 2024, avec un reporting, avec un rapport de durabilité en 2025. Quelles recommandations pratiques pouvez-vous leur prodiguer à ce propos, Isabelle ?
Pour moi, avant de penser à la conformité, il faut garder à l'esprit l'ambition de cette directive, c'est-à-dire mesurer, évaluer la durabilité de son modèle économique et sa capacité à le faire évoluer. C'est mon premier conseil. Mon deuxième, il faut embarquer tous les acteurs de l'entreprise. Cela impose une transversalité dans la gestion du projet. C'est fini, on ne travaille plus en silo. Ce système est caduque. La CSRD requiert de réfléchir sur les risques, opportunités, impacts de l'écosystème. Personne à lui seul dispose de cette connaissance. Bien sûr, le rapport de durabilité est un reporting, mais il doit permettre le pilotage de l'activité. Et ça, ne l'oublions pas.
Quels sont, à votre avis, Isabelle, les principaux écueils dans lesquels les entreprises ne doivent pas tomber lors de la préparation de leur premier rapport de durabilité ?
Je peux comprendre que les entreprises s'inquiètent pour l'établissement de leur premier rapport. Il ne faut surtout pas se laisser submerger par la somme d'informations. C'est vrai que si l'on regarde, il y a la bagatelle de 2000 lignes de questions. Dans tous les cas, elles doivent prendre de la hauteur et procéder du général vers le particulier. Et sans en abuser, l'entreprise peut quand même recourir aux quelques dérogations de la période transitoire et se concentrer sur les informations disponibles. Mais encore une fois, ne pas en abuser.
Alors, ces entreprises, elles sont actuellement en train de nommer leurs auditeurs chargés de vérifier les rapports de durabilité 2024. Pour ce faire, le H3C, qui est devenu depuis la haute autorité de l'audit, a publié en juillet 2023 un avis technique sur la vérification des informations de durabilité. Sur le plan européen, la norme européenne d'audit de durabilité devrait être adoptée en 2025. Il faudra donc être encore un peu patient. Tout au long de cette interview, Isabelle Loss, vous nous avez fait comprendre que l'entreprise doit embarquer toute sa chaîne de valeur dans sa stratégie de durabilité. C'est bien là l'esprit de la CSRD.
Oui, tout à fait. Si l'on regarde au premier abord, la CSRD est une directive de reporting uniquement. Elle demande à chaque entreprise de présenter ses impacts, ses risques, ses opportunités en matière de ESG, de décrire sa stratégie et ses politiques, ses performances et ses ambitions en matière de ESG. Si l'entreprise n'a pas de politique, pas de plan de transition, elle ne sera pas sanctionnée d'un point de vue réglementaire. En revanche, ses parties prenantes pourront la sanctionner, que ce soit les salariés, les consommateurs, les clients, les acteurs locaux. À l'inverse, une entreprise qui s'engage aura besoin de l'engagement, notamment de ses fournisseurs, quelle que soit leur taille, pour atteindre ses objectifs.
Notre entretien va arriver à son terme, Isabelle Loss. En conclusion, que diriez-vous ?
En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, les principales réglementations, dès lors qu'il s'agit d'ESG, prévoient une responsabilité élargie de l'émetteur. C'est donc à l'émetteur d'embarquer tout son écosystème dans ses démarches vertueuses. Aucune entreprise n'échappera donc d'une certaine façon à la CSRD et plus largement à la question de durabilité. Ce n'est donc pas une question de taille d'entreprise, tout le monde économique est concerné.
Un grand merci Isabelle Loss.
Merci Hélène, merci à tous.
Cette émission touche à sa fin, nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous retrouverons début mai avec grand plaisir pour une nouvelle matinale. À bientôt sur les ondes.
Les matinales de KPMG.